Bonsoir, merci à vous d'être ici ce soir en compagnie de Valérie Rouzeau. Et nous sommes réunis ici grâce à Permanence de la littérature et Marie-Laure Picot dans le cadre d'un projet. Tu veux expliquer peut-être ou non?
En fait, le projet, je peux expliquer. Marie-Laure m'a proposé en fait de choisir des œuvres parmi le fond du FRAC pour des enfants qui sont plutôt à la campagne. Alors en l'occurrence, l'exposition se tient à Coutras et les enfants des alentours viennent visiter une petite exposition qui est pour eux, au sens où c'est des enfants qui n'ont pas l'occasion d'aller au musée tous les jours, loin de là, voire jamais. Et en fait, on les accueille et puis je leur propose... après la visite de l'exposition, d'écrire avec moi des petits textes poétiques. Voilà, on fait ça. Alors, j'ai choisi les œuvres dans le fond du FRAC. FRAC, je peux pas m'empêcher de penser que c'est un mot qui veut aussi dire une tenue de gala. Mais là, c'est FRAC, Fonds Régional d'Art Contemporain.
Donc nous sommes ici pour Vrouz, le dernier livre de Valérie. Et pour moi, Vrouz, je vais vous le présenter, c'est plus qu'un livre en fait. C'est à la fois une poète, c'est le prix Apollinaire 2012. C'est aussi tout un fabuleux jeu de construction, de jeux musicaux, de rhétorique. C'est aussi une autobiographie, un autoportrait, et puis une pièce d'orfèvrerie, voilà. Est-ce que tu veux bien nous dire pourquoi, nous dévoiler pour ceux qui ne sauraient pas encore d'où vient Vrouz qui sonne comme une note de musique et qui est mystérieux.
En fait. C'est pas la première fois que le titre n'est pas de moi.
Bravo.
Le premier titre était vraiment de moi, mais sans être de moi. C'était « Je trouverai le titre après ». Et j'avais marqué ça sur le bloc Steno avec les poèmes à l'éditeur à l'époque. Et il avait dit « Ça fait un très bon titre ». Et c'est devenu le titre. Vrouz, c'est Jacques Bonafé, le comédien, qui m'envoie un mail avec un document sonore en pièce, j'allais dire attachée. fille de récupérateur, et bon. Et Jacques me dit, voici du Vrouz. Et je me suis dit, on ne peut pas tout lire. Hein. Du temps de Mallarmé, il avait lu tous les livres. Nous, ce n'est pas possible, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas avoir lu tous les livres. Voilà quelque chose que je ne connais pas, du Vrouz. Et je branche l'enregistrement, et c'était un poème de moi. En fait, j'avais pas percuté que c'est une contraction de Valérie Rouzeau, V. Bref, Vrouz, quoi. Et on l'a finalement gardé. Je dis on parce que mes éditrices étaient partantes comme titre. C'est un titre très discutable, mais pour une sorte d'autoportrait, après tout, pourquoi pas.
Alors, en parlant de titre, un de vos premiers recueils, c'est je trouverai le titre après. Et, en faisant un petit peu le relevé de ces titres-là, je trouvais qu'il y avait plusieurs fois la question du lieu dans tes titres avec poème, petit poème sans gravité, chantier, les chantiers d'enfance, en terre. Une terre, une foule, une terre foulée. Le monde avec un M majuscule. Et ça, c'est impossible pour moi à prononcer, mais je vais quand même essayer parce que c'est en hongrois.
Kékchakaló.
Merci. C'est le nom du château de Barbe Bleue. Récipient, récipiendaire, apothicaria, qui est le bureau de pharma. Qui est modelé sur le bureau de tabac de Pessoa. Et puis la question du temps avec après, dans le titre, je trouverai le titre après, attire d'elle l'automne, À cause de l'automne, chantier d'enfance toujours. Là, on a les deux, c'est patience. Ce n'est pas le printemps. Pas revoir qui t'a fait connaître. Immodérément, le monde immodérément récipiendaire. Mange matin le matin quand je me deux, voilà. Tout ça me mène à te demander si la poésie est pour toi un lieu de vie en tant que Valérie Le Rouzeau ou en tant que poète. Est-ce que c'est un lieu que tu peux habiter?
En fait, j'habite nulle part. Enfin, c'est vrai qu'il y a j'habite en poète. Il y a des on a entendu des formules comme ça déjà. Ça me concerne pas vraiment. En fait, la poésie pour moi, c'est juste pour rester debout, c'est tout. C'est pas un lieu de vie.
Bonne casa.
C'est venu no casa. Par contre, c'est vrai que quand je peux écrire, je suis quand même un petit peu quelque part. Donc, mais c'est le lieu finalement pour moi qui me sens transbahutée d'un lieu à l'autre en permanence, mais pas du tout voyageuse. Donc c'est presque une souffrance. Ça m'apporte beaucoup moins que le temps. C'est beaucoup moins. Moi, je suis quelqu'un qui a une mémoire phénoménale des dates. J'oublie des tas de trucs, mais les dates, j'aurais pu... Je sais pas, j'ai une éphémérite dans la tête. C'est plus le temps et le fait que le temps n'existe presque plus. Donc c'est plus ça mon souci. Parce qu'on est tout le temps dans quick, quick, quick. Il faut... Tout est court terme. Tout est... Il faut avoir... Tu as à peine commencé à rencontrer quelqu'un que tu dois passer dans... Enfin, on est dans une vie où le rythme, de manière générale, c'est ce qui m'a fait... quitter Paris pour la Bourgogne, c'est pas possible, ça va beaucoup trop vite. Enfin, pour moi, voilà. Lieu, bon.
Et hormis la vitesse, en fait, est-ce que tu associes des qualités ou des défauts humains dans ce temps-là? Je pense à des vers comme « Soudain, on se sent cloche » ou bien « La voûte mal céleste de la gare grouillante ». Ou celui-là encore, que j'aime beaucoup, « Je sonde ma personne, facture donc, ma crève et mon temps de parole. »
Voilà, c'est une question de temps. Non, ça c'est parce que... Enfin, ma crève et mon temps... Oui, c'est des petits poèmes qui parlent pas forcément de moi, d'ailleurs. Mais les personnes rencontrées, beaucoup d'enfants... Ça parle de moi, quand même. J'ai oublié la question, ça y est. C'était quoi, ma crève et mon temps de parole? C'est parce que des fois, on m'invite et il faut que je fournisse tout.
Clé en main.
Non, mais il faut que je fasse une facture. Parfois, on me demande des trucs, je comprends même pas la question. Un numéro de sirette. On me parle de TVA, de choses comme ça. Moi, je peux pas gérer ça. C'est le cas de le dire, c'est le mot qui convient. Et un jour, j'ai eu une conversation très intéressante avec le... Monsieur l'agent comptable de l'AGSA, la sécu des écrivains. Et il a dit, je me souviens de vous parce que vous étiez venu une fois et vous aviez dit qu'il fallait vous offrir un CAP de comptable. Et du coup, quand j'ai un souci avec l'AGSA, le monsieur se souvient de moi, c'est bien. Pardon Florence, j'ai complètement oublié la question.
Ouais, moi aussi, mais je voudrais lire un poème sur le temps que je trouve magnifique, celui-ci. Là. Je vais essayer de ne pas trop l'écorcher. En fait, on a le micro devant, c'est pas très pratique pour lire avec. Tu te méfieras tout à l'heure. À l'heure tardive où j'ai sonné chez les voisins, clé qui ouvre, couteau qui coupe. Une chouette se cachait dans les arbres de l'avenue. Oiseau, merveille, jadis cloué aux portes. J'avais pris le tramway centenaire pour rentrer. Clé qui coupe, couteau qui ouvre. Trouver une cabine téléphonique toute rouge, appeler la logeuse. Au secours, allô ! Hulotte ? Il y a une chouette dans chacune de mes têtes. Clé qui ouvre, couteau qui tranche, et tout le long du long, 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 grand boulevard, les rails crissent, le jour tombe, voilà la lune, clé de ciel, couteau lancé, sans lame de fond, manche à balai. Alors, dans ce poème, je trouvais qu'il y a une sorte de lyrisme romantique. Est-ce que c'est, on peut dire ça?
C'est plus petite chanson enfantine.
Enfantine avec les couteaux qui coupent.
Oui, absolument, mais les enfants sont redoutables. C'est, un couteau qui coupe, c'est juste un couteau qui coupe. Enfin, j'ai toujours entendu ça. Mon père disait à maman, mais tu m'as encore mis un couteau qui coupe pas.
Oui.
Un couteau, quand on mange un beefsteak, il faut
Souvent on dit
un couteau qui coupe.
Passe-moi un couteau qui coupe.
Il coupe pas tous.
En fait, c'est
un tout petit poème très léger. Bon, j'ai un souvenir du nord de la France où j'ai vécu 4 mois en 2011 et j'avais laissé les clés de l'appartement où on me logeait sur la boîte aux lettres. Donc j'étais à la porte d'un logement qui n'était pas chez moi en plus. J'avais pas de téléphone, enfin vous savez ce truc, téléphone portable je veux dire. Je déteste ça, mais j'ai vraiment une horreur de cette chose. Et donc j'étais à Villeneuve-d'Ascq. Et j'ai réussi à joindre la propriétaire. Enfin, bon, bref, j'ai réussi à rentrer. Et je raconte ça en petite comptine. C'est presque... j'aime le romantisme, hein, absolument. Anglais, allemand, français en dernier. L'anglais d'abord. Ça m'importe beaucoup, beaucoup. Mais ça, je ne suis pas sûre que ce soit romantique. Je dirais que c'est...
Je trouve lyrique, moi, plus.
Oh, oui. Mm-mm.
Je vais rebondir sur l'anglais. Tu as traduit Sylvia Plath, qui est publiée à la... Hein?
Non.
Et dans tes poèmes, on retrouve, surtout dans Vrouz, de nombreuses fois, la langue anglaise qui vient s'immiscer dans la langue française. Il y a même carrément des vers en anglais, celui de Walter Whiteman, The first time the lion shows its truthful face. Puis un autre, celui que j'adore, c'est Mon avion est délayé. My plane is
delayed.
Alors, je voulais savoir si en fait, chez toi, la langue française n'est pas étanche avec la langue anglaise. Si quand tu écris, ça se présente comme ça, est-ce que c'est une nécessité ou est-ce que d'un coup, tu te mets à penser en anglais, alors du coup, ça sort en anglais ou est-ce que tu cherches délibérément à jouer comme là avec Mon avion est délayé, c'est génial ça, mais il y en a plein partout.
J'étais coincée dans un aéroport, il neigeait, l'avion pouvait pas décoller. Et en fait, dans les aéroports, quand on fréquente les aéroports, on entendait toutes les langues comme ça. Et c'est mais en fait, des fois je me dis l'Europe, ça aurait pu être l'Europe, enfin ça aurait pu être autre chose que quelque chose d'économique, ça aurait pu être beau. Et à un moment, je me suis dit, j'y ai pensé, c'est-à-dire mettre des mots européens. Et il y a du slovène, il y a de l'espagnol, de l'allemand. Alors c'est l'anglais qui est prépondérant, parce que c'est quand même... je suis angliciste, mais J'ai une méthode assimile chez moi, le roumain sans peine. Enfin, je veux dire, c'est non, ça m'intéresse. Voilà, ça m'intéresse d'être perméable aux autres langues. Et parfois, je me sens presque mieux. Mais c'est peut-être une bizarrerie ou je sais pas. Mais je me sens presque mieux des fois dans un pays où je comprends rien que dans une brasserie pourrie du cœur de la France où j'entends des horreurs et je comprends tout.
Et dans les langues.
J'ai le goût des langues. Hein, ouais. Le Tchérémis des prairies, je ne le parle pas du tout. Pardon, Florence.
Tu ne le vois pas
hein, c'est... Non, non, c'est
la fille. Est-ce qu'elle est allée chercher ça
Je peux te dire où je suis allée le chercher parce que je.
Il faut peut-être prévenir les gens. C'est une langue finno-ougrienne parlée sur les bords de la Volga. D'ailleurs, à un moment donné, tu as un verre qui est superbe. Nous avons. De la Volga.
Oui, bon, ça c'est de la triche, c'est de la vodka, mais c'est une petite. Oui. En fait, le Tchérémis des prairies, c'est l'une des 22 langues que parlait Armand Robin, qui est pour moi l'un des poètes essentiels. C'est quelqu'un qui avait demandé à un professeur d'espagnol pour l'écureuil avec qui il vivait dans sa chambre de bonne à Paris. Enfin, c'est ce genre de type qui a traduit. Des poètes arabes, des poètes chinois, des poètes hongrois. C'est une espèce de monstre, entre guillemets. J'ai une admiration sans borne pour poète breton. Enfin non, poète, né de mais sa langue maternelle est le breton, c'est pour ça que je dis ça. Né de paysan breton, un type incroyable. C'était un ami de Georges Brassens. Et ce garçon parlait... Le Tchérémis des prairies, ça fait rêver. Après, je n'ai aucune idée de... Je ne peux même pas dire un mot en Tchérémis des prairies, c'est un peu honteux quand même. Mais il a traduit les grands poètes russes, Mayakovsky, il a traduit Omar Khayyam, il a traduit... Enfin, c'est assez incroyable, un poète qui puisse... traduire 22 langues. Et il écoutait les radios du monde entier, il dénonçait les propagandes. Il dénonçait les propagandes, notamment russes, il dénonçait le régime stalinien. C'est un garçon qui a fini mort dans un commissariat quand même, on n'a jamais su. On n'a jamais vraiment su, ils sont venus le chercher un matin, il mangeait plus, il écoutait la radio toute la nuit, il travaillait tellement qu'il mangeait plus, il s'épuisait. Et vous allez rire pour l'anecdote, c'est pas rigolo mais... Armand Robin est mort. Philippe Jacotet, je crois, est le seul à avoir fait un hommage dans le monde. Et la SPA est venue chercher l'écureuil, ils ne l'ont jamais retrouvé. Parce qu'il vivait avec un écureuil. Voilà. Bah, c'est l'un de mes phares, hein, donc je peux être un peu bavarde sur Armand Robin.
Tu nous recommandes lequel de ce livre ?
Ma vie sans moi.
Ma vie, oh, c'est magnifique. Dans Vrouze, en fait, et en t'entendant parler, on a le sentiment que chaque poème correspond à une de tes journées ou à un portrait de toi ou le portrait de quelqu'un que tu as rencontré, que tu as vu. Est-ce que c'est un moyen de recycler le réel ou quelque chose comme ça. Alors là, je prends une perche dans ce verre. Les petits tris font les grands recyclages. Ça m'a amusé, en fait. Oui, ça fait penser à les petits ruisseaux font les grandes rivières, bien sûr.
C'est, en fait, la formule était sur
le camion.
Le camion. En fait, il est possible qu'il y ait du recyclage dans ce que je fais, puisque... C'est vrai que je suis quand même influencée par mon enfance et papa était récupérateur. Donc les vieilles voitures, les vieux papiers, les vieux journaux, les vieux métaux, tout était en fait... papa, il les récupérait. Il les mettait en... Ça s'appelle des balles. Donc il faut imaginer des dés à jouer géants de 500 kilos. Pour une de chevaux, ça faisait un dé. Ça dépendait de la taille des voitures. Après, pour les chiffons aussi, les acryliques, enfin... Tout était mis en balle et réexpédié aux usines de recyclage pour devenir autre chose. Donc effectivement, enfin je m'en suis aperçue, mais c'est après la mort de mon père que quelque part je recyclais un peu moi-même. Oui, c'est juste.
Donc ce livre, on peut le considérer comme une autobiographie ou...
Oui et non. Il manque plein de choses. Enfin, il aurait fallu qu'il soit... Je ne l'ai pas fini, en fait, ce livre. J'ai dû rendre le manuscrit à mes éditrices qui m'avaient fait signer un contrat. Il n'était pas fini. Donc j'ai fait parmi ce que j'avais, j'avais le double de poèmes, j'ai pris ceux qui me semblaient les plus dignes d'être montrés, on va dire. Et puis, je pense que je n'ai pas fini. Enfin, je poursuis quelque chose un peu dans cette voie-là. Mais ce que je veux écrire, ce que je souhaite écrire avant de la fin de ma vie, on va dire, c'est un bestiaire. Et j'ai, voilà. Donc ça, c'est...
T'as déjà l'écureuil ?
Je vais peut-être prendre l'écureuil d'Armand Robin. Oui.
Ouais.
Ta grenouille.
Le bachot.
Dans Vrouz, ce qui est aussi, enfin, ce qui m'a beaucoup stupéfié, c'est la façon dont tu t'appropries tous les éléments. Enfin, il y a des anagrammes, le carpe diem, il y a le pauvre Lélian, qui est l'anagramme de Paul Verlaine, qu'on connaît tous. Et il y a les slogans. Les fumeurs meurent. Je ne vois pas la suite sur le paquet de cigarettes légères. Quelle nouvelle ! Ça alors, les fumeurs meurent. On trouve des marques du mitosil, des noms célèbres, le Café Rouge, le nom de magasin, le BHV, nom de banque, la BNP, bien à côté de chez vous, là, je ne sais plus comment c'est. Est-ce qu'on peut parler d'une ce qu'il y a on peut imaginer une topographie de Vrouz.
Oui, c'est possible, oui. Oui.
C'est-à-dire, j'ai vu qu'il y avait, on partait des tout petits, des noms de rue, la rue des fleurs. Après, ça, on était petits, puis comme si on était pris dans une montgolfière, et on s'élève. On passe de la rue au quartier, le quartier mairie à Paris, les noms de départements, le Var, Hong Kong, la cité-état, les noms de pays. Alors, on va en Angleterre, bien sûr, au Pérou, au Brésil. On s'élève comme ça, on est au bord du bleu de la belle Méditerranée. Ensuite, on vient à l'Europe. On s'élève. On va jusqu'à la planète Exocet, le monde pressé dont tu nous as parlé tout à l'heure. Et puis, d'un coup, pouf, les cimetières, le Ponchtal, où est enterrée Sylvia.
Il y a deux cimetières, oui, celui de Sylvia Plath. Heptonstall dans l'Yorkshire, non. C'est le, pour ceux qui connaissent Emily Brontë, c'est le lieu des Hauts de Hurlevent. C'est vraiment là. Je l'ignorais absolument. De la fenêtre du salon de mon éditrice anglaise, on voit l'église adjacente au cimetière où est enterrée Sylvia, en fait. Et l'autre cimetière, c'est le cimetière du Montparnasse où est enterré quelqu'un que j'adorais, qui est Arlette Albert Biro. Voilà, il y a deux cimetières. Et là, je suis logée tout près d'un cimetière. C'est apaisant. Enfin, pardon, c'est pas une blague. Hein. J'aime beaucoup les cimetières, en fait. J'ai toujours fréquenté ces lieux-là pour trouver un peu de paix.
Alors, je me suis posé la question par rapport à tous ces noms qui viennent et reviennent partout dans Vrouz. Est-ce qu'on peut parler de name dropping ou pas ?
Les noms propres ?
Ouais.
Les noms des gens ou...
De tout, tous les noms.
Je pense que c'est pour me situer moi-même parce que je me perds.
D'accord.
Quelqu'un qui se perd. Donc, c'est des bornes, en fait. C'est pas... Alors, je fréquente beaucoup les festivals internationaux et parfois quelqu'un me dit « Please drop my name ». Et il suffit que quelqu'un me dise ça pour que je le fasse pas parce que je trouve ça... Non, je trouve ça grossier. Enfin, je dirais pas à quelqu'un « tu donnes mon nom ». C'est lourd, c'est juste... je drop les names que je veux. mais par contre, j'ai pas du tout pensé dans ces termes-là, d'ailleurs.
Non, mais ça m'est venu... Ça
m'intéresse, parce que... Oui, oui, ça m'intéresse.
Parce qu'en même temps, c'est aussi une petite balade, enfin, une grande balade.
C'est vrai qu'il y a plein de
Moi, j'ai eu le sentiment comme ça d'être, de m'élever, de me balader dans les rues avec toi, de voir les personnages vraiment s'incarner. Et puis, il y a ce poème-là dont on a parlé hier. Tu peux ? C'est un poème que je trouve qui est vraiment un poème choc pour moi dans Vrouze. Je vais me tenter la lecture. En froc et dans sa merde, jean bleu marron, de vrai chéri, planté au bord de l'avenue, l'œil dans le vague du mur d'en face. Prête à porter de luxe, ne lit-elle pas, femme niveau zéro, enfant et chaussures. Dans le vacarme des bus, scooters, voitures, elle titube, elle s'oublie, empuantie de chiasses crasses parmi du monde pressé, le vin mauvais la colle sur place, épouvantable, lit vrai de la société. Moi, c'était un uppercut, ce poème. Est-ce que tu veux nous dire qui est dedans ou
Non, bah, je ne sais pas qui c'était. Je suis une dame qui était au bord du coma éthylique, hein, sur l'avenue de Clichy. Et moi, ce qui m'a le plus choquée, c'est en fait, j'allais au cinéma, en fait. Et j'allais au cinéma des cinéastes. C'était, cette femme, elle allait tomber, ça se voyait. Elle était comme ça, hébétée. Et devant moi, il y avait deux bourgeoises, hein, pour faire vite, qui se moquaient d'elle. Et je trouvais ça odieux, vraiment, voilà, bon, c'est... Mais je sais pas qui c'était, j'ai juste pris sur moi d'appeler le SAMU. Je saurais jamais qui c'était, voilà.
Et le prix Apollinaire 2012, est-ce que c'est un aboutissement pour toi, ou bien comment tu l'as reçu
J'ai reçu un jour où j'étais pas libre. C'est-à-dire qu'on m'a téléphoné, que j'avais le prix. Et pour moi, je savais que Vrouze était sur la liste des nominés, on va dire ça comme ça. Et j'avais vu qu'il y avait Franck Venaille, donc j'avais complètement oublié. Parce que, en tant que lectrice de Franck Venaille, pour moi, c'était forcément pour Franck Venaille. Et c'est moi qui l'ai eu. Et quand ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit, remise du prix, forcément, c'est le 20 octobre. Alors je dis, c'est une très bonne date, c'est le jour anniversaire de la date de naissance d'Arthur Rimbaud. Donc c'est une bonne date. Mais je suis pas libre. Je suis à Fontenay-le-Comte le 20 octobre. Je suis engagée. Des gens m'ont demandé de... Alors j'ai dû faire toute une pirouette pour... Parce qu'eux, ils pouvaient pas... C'était la remise du prix. Alors il y avait une mécène, une actrice. Enfin, tout était prévu. Tout le monde était... d'accord sur la date. Enfin, ils savaient tous que c'était le 20 octobre, sauf le lauréat, en l'occurrence moi. Donc, c'est quand même curieux qu'ils ne préviennent pas les gens. Donc, comment ça s'est passé? J'ai eu le prix quand même, mais l'actrice s'était cassée une jambe la veille et la mécène était un enterrement, mais j'ai eu le prix. c'était très, très curieux. J'ai fait un aller-retour Niort-Paris. Et j'ai eu mon prix Apollinaire qui est plus important encore que je l'imaginais, dans le sens où, quand je l'ai eu, j'ai eu beaucoup de coups de téléphone, beaucoup de mails, beaucoup d'invitations. Donc les gens sont sensibles à ce prix, c'est vrai. Enfin, je savais que c'était un prix important, mais je peux dire que je m'en compte personnellement.
On le compare au prix Goncourt
On l'appelle comme ça, ouais. Le Goncourt de la poésie.
Il existe, non, le Goncourt de la poésie?
Il existe, mais il a moins de visibilité, hein. J'ai l'impression. Enfin, qui a eu le Goncourt de la poésie? C'est Jean-Claude Pirotte. Ouais. Mais qui avait eu l'Apollinaire l'année d'avant. Jean-Claude, il rafle tout.
Donc, moi, j'ai relevé 18 livres de poésie, c'est ça? Non? Si c'est pas, t'en as tellement fait.
Non, il n'y en a pas 18. T'as dû compter les livres d'artistes.
J'ai compté les lignes. Bon, un CD, enfin un double CD.
J'aurais dit 12.
Des paroles de chansons pour le groupe Indochine. Préface aussi. Et comment ?
Rien.
Et je voulais te demander si tu as d'autres formes d'écriture que tu voudrais essayer.
Oui, Bon, ben, j'écris des tas de choses. Hein. C'est juste que je montre qu'une petite partie. Un récit, oui. Le bestiaire, c'est pour moi, c'est vraiment ce que je voudrais. Quand je l'aurai écrit, je pourrais partir sur la lune. Mais un bestiaire, mais la poétique, mais un récit aussi. J'ai des ébauches, mais j'ai rien qui tient la route pour l'instant.
Un récit roman.
Je suis pas quelqu'un de la prose, en fait. J'ai une pensée très. Une pensée. Enfin, c'est pas de la pensée, du reste, c'est pas ça. C'est que je suis toujours. Je me sens plus proche d'un bluesman que d'un romancier. Je veux dire, j'ai besoin des syllabes, j'ai besoin de. Si j'étais anglaise, j'aurais besoin des pieds. Mais en même temps, ça dépend de quoi on parle. Enfin, je veux dire, j'aime peut-être pas aucun auteur plus que Virginia Woolf. Donc, et c'est de la prose. Mais c'est pas. Et d'ailleurs, faut pas opposer prose et poésie, puisque c'est. On en parlait l'autre jour. Alors, c'est le meilleur de Rimbaud est en prose. Si Rimbaud n'est pas un poète, alors.
Une saison en enfer.
Et les illuminations.
Ouais.
Donc, effectivement.
Et le théâtre?
Par contre, non, surtout pas.
Surtout pas le théâtre?
Non. Même si j'écris pour une metteuse en scène actuellement, j'ai quasiment fini les paroles d'un spectacle pour Michel Adala, qui est une metteuse en scène qui participe au Festival In sur Avignon. Mais alors, c'est très particulier comme commande de texte. Depuis septembre, on mène, enfin c'est Michel qui les dirige, moi je prends des notes surtout, je participe, des ateliers de parole auprès de la population extramurose d'Avignon. Il y a le bel Avignon dans les murs avec le fric et une belle ville qui a l'air comme ça. Et puis vous sortez, vous allez dans le quartier Montclar, vous allez à Terminus Montclar, et là il y a des gens dans une misère épouvantable, et c'est ces gens-là qui, essentiellement des femmes, de toute façon le projet c'est être une femme, être femme, enfin, mais il y a aussi des messieurs qui participent de leur ressenti, et en fait, les gens viennent discuter autour d'un café, et moi je prends des notes, et donc je vais. Bah, j'ai quasiment terminé ce travail d'écriture. Elle a un dramaturge à côté. C'est-à-dire que Michel voulait qu'il y ait des poèmes pour rythmer son spectacle, son prochain spectacle. Voilà. Elle m'a demandé de faire ça. Donc, mais je lui ai d'abord dit non, parce que quand elle m'a dit théâtre, j'ai dit non. C'est pas. Alors là, c'est vraiment pas. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, le théâtre. Je n'y peux rien. Hein, c'est pas.
Ça veut dire que tu vas pas au théâtre ou
non, j'y vais pas. Non. Non, je vais
pour
pas au théâtre.
Pour le coup, tu vas y aller cet été alors.
Oui. Non, mais c'est pas dire non plus que j'y vais jamais, mais c'est pas. Je sais pas. J'ai un petit problème de. C'est un manque d'éducation peut-être de ce côté-là. J'en sais rien. C'est. J'ai tendance à préférer. Pourtant, l'un de mes grands auteurs, c'est Shakespeare. Bon, c'est pas original, mais c'est Shakespeare. J'adore le lire. J'ai pas spécialement envie d'aller voir une pièce.
Et après ce projet qui va se terminer donc à la fin du mois, c'est bien ça, ici
oui.
À Bourg-sur-Bordeaux. Est-ce que tu as d'autres projets qui sont en vue avec des ateliers d'écriture et toi ou est-ce que tu vas...
Ben, j'ai d'autres projets. Enfin, un projet... vers Montélimar, autour de la Nationale 7, enfin l'ex-Nationale 7, la Route Bleue, avec des photographes. Donc ça, ce sera une semaine en mai, une semaine en juin. Et puis à l'automne, j'ai un projet autour de... avec une metteuse en scène dont le nom m'échappe, parce que je viens juste de... Isabelle, mais je sais plus, je suis désolée. C'est sur Roanne, dans un quartier pauvre, où en fait Isabelle veut distribuer des enveloppes de 50 euros... aux gens pour qu'ils nous invitent à manger autour du repas, mais nous on fait pas les repas, on va aller dans les familles, c'est un peu assez proche du projet d'Avignon de Michel, c'est encore autre chose. Il s'agirait de, pour moi, d'écrire une douzaine de poèmes à partir de ces repas, ces rencontres avec les gens, et publier un petit livre pour tous ces habitants-là de ce quartier de Roanne pour Noël 2013. Voilà. Et puis, c'est pas mal déjà, je trouve. Il faut aussi que je garde la place pour moi, parce que les commandes, ça empêche aussi d'écrire forcément. C'est ce qu'on... Enfin bon, il faut essayer de pouvoir mettre son petit grain, quoi.
Un petit grain, tu veux bien nous lire tes poèmes, non, s'il te plaît ?
Quelques poèmes. Pas trop, hein. Thermos de café noir, petit luz authentique. Dans le train pour Clermont, qui s'arrête à Nevers, un petit gars tout seul, je lui donne un biscuit. Il connaît bien, il croque en premier les oreilles. Ce n'est pas Brest ni Nantes, pourtant il pleut, et les sapins sont verts, la couleur du voyage, avec le beau gris perle des nuages levés tôt, les yeux bleus de l'enfant qui se ferment à présent. Petit beurre fabriqué avec blé cultivé pour être encore meilleur, c'est dit sur l'emballage, en biodiversité comprenant les bordures, fleuries pour les abeilles et puis les papillons. Tout est parfait. Comment penser qu'on va mourir ? On prend pour nous tellement de précautions. Un poème, encore, il y a encore de la pluie, mais comme à Bordeaux hier, et presque tous les jours depuis que je suis à Bordeaux.
Aujourd'hui, le soleil, quand même.
Hein. Oui, oui, oui. C'est vrai. Aujourd'hui,
une petite croix sur le soleil, quand
même. c'est à propos de... Ça m'aurait intéressé, si j'avais fait des études de cinéma, de faire un petite étude sur la pluie au cinéma quand il y a une histoire d'amour. Il y a toujours, je vous assure, il y a toujours un moment où il pleut. Alors là, je ne vous dis pas quels sont les films, mais vous allez en reconnaître quelques-uns, je pense. Hein. Il y a des notes à la fin du livre, mais je ne vais pas vous lire des notes. Au fond du ciel à gauche, peut-être, on verra bien. Les effets spéciaux, pluie, amour, cinéma, pluie. La liste est longue d'amour. Au cinéma, il pleut sur les cheveux d'une belle, comme des papillons bleus. Elle lui plaît, il lui plut, dès le premier regard. À Cherbourg, à Hong Kong, en septembre, sur la route de Madison, on ne vit qu'une seule fois. Crève les yeux, crève l'écran, l'eau vive avec le feu. Coup de foudre émotif, niaule pour les anonymes. Une goutte aura suffi à griser les amants. L'amour-passion déborde, moisson d'apocalypse. Déluge et pieds dans l'eau, les escarpins, les bottes. Ça monte à la tête droite par le cœur emballé d'un homme et une femme beau à Deauville, ville d'eau. Je suis garée là-bas, fait le monsieur. Montre une île, un nuage. Comment est-ce God possible ? Le soleil a tombé. C'est le couchant, l'école y coule, de la vie coule. Rougit la multitude, émotion belle, impure. Je suis assise ici ce soir, je te regarde. C'est nom de Dieu possible. Et la madame sort des toilettes. Doublon tout blond scintille. Je n'ai pas de voiture. J'avance par milliers en chaussures. La petite voiture rouge est toujours là, garée sous le panneau publicitaire. Projet d'été, club merde, etc. Petite caisse rutilante ne décolle. Son chauffeur est peut-être égaré quelque part. Peut-être a-t-il été arrêté, ivre-mort. Ou bien il rêve, il oublie tout, maison, femme, enfant, chien, permis, carte grise. Les feuilles des platanes chutent plein le toit, de l'auto vermeille, abandonnée, patiente. Comme si elle n'avait jamais tout oublié. Comme si elle avait une longue vie vent droite, sans crainte des orages ni des coups de soleil. La petite voiture rouge, manège, attend son tour. Les fumeurs meurent, je ne vois pas la suite, sur le paquet de cigarettes légères. Quelle nouvelle ça alors ? Les fumeurs meurent, comme tout le monde, toi, moi, le buraliste. Qui vivra vieux sans pratiquer du tout, pour sa santé, une saine activité physique, chaque jour, manger, bouger, voilà. Aux heures de pointe, j'assure, jusque dans le métro, publicité pour des chewing-gums sans sucre. Une fille sourit aux heures de pointe, sourit, dessus l'affiche collée un peu partout. Ainsi, les chewing-gums gomment votre mauvaise haleine, les chômeurs pleurent et les hommes d'affaires faire le train et ses wagons, le regain capital. Il est quelle heure ? Je suis heureuse, il y a un arbre. La guerre, le nucléaire, heureuse, il y a un arbre. Ce 1000 milliardième oiseau éteint, un arbre. Une promesse de forêt, d'oubli, de « je m'en vais ». Quelle heure du soir comme du matin ? Un arbre dressé franc qui remplit mes deux yeux. La page, le paysage, la fenêtre aussi bien. Un humain par seconde meurt, il y a un arbre. Où la fille à l'escarpolette en l'air s'envoie. La joie en quel temps, pays de vivre, quoi ? Il y a un arbre, n'empêche, pile, juste ici. Le vent couchant, il tient, en embranchement, la lune et le soleil et la lune. Un arbre, voyageur impeccable. À grosses joues pétantes, bébé joueur, joufflu à faire joujou toujours, bien le bonjour, bouille jouissif j'ouvre, comme à de la joie sa pajou. Bouille toute de bouillie barbouillée, s'ajoute, s'ajuste à une gaieté, de lumière brute sans abat-jour, loin des bajoux nonagénaires, on en pince pour le rebondi, des fesses, des petites pommes pommettes, avec parfois deux trous, fossettes. Petite fosse, l'enfant apparu, rond presque lunaire, ingénu, mouchoir, bouilloire, eau, pure alarme. On pourrait bien se desserrer un peu. Ce TGV où monsieur exige sa place assise, numérotée précisément, n'est pas bondé. Ne circule pas en période rouge, période de pointe. On a passé la Loire, passé la pierre des corps. Dixit la petite fille qui dessine à côté. À 1 heure de Paris, Montparnasse, Parnassum. Une file indienne comme de canards, de peupliers. L'ami aurait aimé, qui s'envole aujourd'hui. Migrateur très léger, cendre au ciel dispersé. On peut se desserrer, on est en période bleue. La gamine colorie son dessin réussi. Elle étale des couleurs jusqu'à ses joues, son nez, le reflet du monsieur anxieux, dessus la vitre. Alors, je ne donne pas les solutions aux anagrammes. Mais c'est plein d'anagrammes. Si je vous en donne juste une. Imbécile du Havre, on pourrait penser que c'est Raymond Queneau. Peut-être il aimerait cet anagramme. C'est alchimie du verbe. Il y en a plein d'autres, mais c'est la solution de la fin du livre. Tracer des mots fléchis ainsi que des noms propres. Si mon pif n'est pas zen, j'adore les anagrammes. Anacyclique ou non, du désir associé à ces poèmes de qualité gronnée. Mais n'est fin, il n'empêche, pour l'imbécile du Havre, si mal gaucher nommé gyrophare, giroflé, et pour lutte-refrain, tueur, c'est futur antérieur. Chacun aura saisi qu'il pleut sur les ardoises, qu'il pleut sur les framboises de la folle chanson. Moi, moins bière de passant que sardine pas bête, suis absente de Paris, la formule consacrée. Assez de mise en boîte, de test envers amis, et à Paris de mec, si je pêche à la ligne Carpe diem, je préfère Cap de Rime. C'est un poème que j'ai dédié à une amie humoriste, Michel Guigon. Je vous la conseille si vous avez l'occasion d'assister à un one-woman show de Michel Guigon. C'est génial. Mozart, il fallait que j'écrive un mot pour tester mon crayon, flambant nouveau allègrement, et dire un requiem à l'autre, crayon qui ne crayonnait plus et ne pouvait plus se tailler, ne m'avançait à moi plus rien, un petit morde dans ma main. Mauvaise mine, il ne traçait plus. Alors je lui ai mis Mozart, le beau requiem de Mozart, pendant que son successeur Chris ses quelques traits sur le papier. Commence son exercitation. Je vais finir par demander réellement à être poète officiel de la SNCF. Dans les trains anonymes, on raconte sa vie. On invente peut-être aussi un autre soi. Cette dame mise en plis semble tellement fière de son fils qui n'est pas n'importe qui, dit-elle, même qu'il a réussi. Il dirige une banque. Ses yeux brillent quelque part dans le cœur du pays que le corail traverse à bon rythme. La vie, ma vie, j'en parle à peine, ou je la brode. Lorsque les hommes d'affaires arrêtent de gueuler dans leur téléphone noir orange l'ordre du jour, aussi fort que titre gros aux érections présidentielles, l'éternel bat de l'aile, quelqu'un a éternué, je me gratte le nez, ce vieux veut m'embrasser, et la dame, très coiffée, descend sans crier gare. Dans la multicolore foule de la gare, les venues, les allées des autres, des uns, parmi les cheminots, le monde, je croise un beau garçon aux cheveux blancs. Sa queue de cheval est tenue par une pince à linge verte comme du printemps doucement. Herbe aussi folle qu'elle en a l'air, vert d'eau calme, pleine de grenouilles prêtes à crever le plafond de leur champ. La voûte mal céleste de la gare grouillante, de gens plus ou moins encombrants, plus ou moins encombrés, de gens allant venant, dont ce garçon furtif, pour qui j'en pince juste en passant. Dans le poème qui suit, envourné, c'est un mot que j'ai trouvé chez Colette. C'est quand on a la tête qui tourne.
Et je me demandais justement.
C'est chez Colette que j'ai trouvé ce mot, mais je ne sais plus dans quel livre par contre.
Parce que en cherchant. Sido,
je crois, Sido.
Pour Envournée, en fait, on tombe sur un terme, un régionalisme.
C'est un régionalisme.
Nivernais, c'est ça?
Je l'ai trouvé chez Colette. Alors, c'était peut-être chez Colette, c'était peut-être Envournée, en fait, d'un régionalisme l'autre. Ouais, mais ce n'est pas un mot qu'on va trouver dans le Petit Robert. Non, mais on peut le retrouver. Ouais. Voilà, c'est.
Ça fait penser à Eva Pourré.
Oui.
Celui-là, c'est un inventé de mots.
Oui.
C'est entre Eva Pourré et.
C'est une valise.
C'est à toi.
Pour aller avec les trains. La tête d'Envournée dans le métro rapide, je vois ce jeune homme pâle, sa mèche crantée, ce joli coup de peigne qu'il a quand il sourit. Alors je reconnais sa très arrière-grand-mère, la jeune fille d'autrefois qui vit dans ce gars-là. Elle existe, je l'ai vue, comme lui je le vois. Les yeux verts, un peu gris, la couleur de la Seine. Bien coiffée, plutôt sage, au-dessus de la Seine. Car on sort de sous terre, le métro aérien traverse les nuages, tout le ciel de Paris. Et je rêve dans le sens inverse de la marche. Elle a dû bien valser, remplir plusieurs carnets de balles pour traverser un siècle. Nous voici à Étoile, le jeune homme envolé. Pendant qu'elle digitale envoie texto, ses orteils dansent, nus vernis, vernis nus. Sous son trône d'un moment, siège de tram. Elle pianote joliment ses « je t'aime » sur le bout des doigts, ses ongles papillonnent. Rose et noir, noir et rose, aux mains, aux pieds, gracieuse et concentrée. T'inquiète, lol, désolée. Elle envoie ses textos comme des bulles, des baisers, en traversant le paysage de printemps, les arbres en fleurs, pommiers, pêchers, peuplés de turques tourterelles. Voix royale vers quel paradis? Est-ce aimé? Est-ce fragiles abeilles? Émues, remuées, jusqu'aux orteils. Je voudrais assez une lampe, de la lune à mon papier, mes cahiers d'écolière, clavier, pommes croquées, logiciels. Que cela m'éclaire la main, m'illumine la tête pagaille. C'est beaucoup demander, c'est vraiment ne pas manquer d'air, mais quand même, luxe, pas du luxe, faisceau de choses tordues, toute torche est bienvenue. Dans ma nuit, je voudrais aussi voir passer un ange allumé, équipé d'une pompe à vélo. On avait retrouvé les vraies paroles de Au clair de la lune. C'est en fait Au clair de la lune, mon ami Pierrot. On croyait que c'était prête-moi ta plume pour écrire un mot. C'est pas ça. C'est prête-moi ta lume, ta lumière. En fait, il y a un P qui a été. J'ai pensé à ça quand j'ai écrit ce poème. Le garçon rend la mangue trop chère à la caissière. Pas assez dans son porte-monnaie, pas moyen là. Pas assez transpiré, pas assez de liquide. D'euros au boulot, pas touché le gros lot. Il a l'œil noir, le sourcil inquiété. La peau cuivrée d'aimer bien le soleil. La mangue pèse pour la peine, soudain la mangue, sur la petite balance aux fruits et aux légumes, la mangue sent le Pérou, le Brésil et encore l'oléo résine jaune ou brune térébenthine. La meilleure est celle du Mali, qu'on ne trouve pas en France, où le garçon travaille. Et maintenant, rien, il repart, voilà, comme il était venu, avec trop peu d'espèces. Pas de quoi. Et puis les deux derniers. Tous les jours, je traverse de parfaits inconnus. Une dame au petit chien qui boit Sauvignon sec. Un gars dans un t-shirt jaune d'or pour m'éblouir. Une infirmière aux yeux froissés, ma tante. Des hordes d'écoliers, des centaines, des myriades, parfois certains me donnent le bourdon. Je pense au futur d'avance misérable. Un autre gars qui passe en sifflant longuement, comme d'un baiser, j'ai peur d'une abeille. C'est trop éprouvant de voir tant de prochains, même à bonne distance, bien salutaires, inconnus, les aptères, bipèdes qui viennent et vont. Tous ces prochains passés, je ne veux pas y aller, comme ça, toute seule à Yep, sans dictionnaire. Mes petits voisins, dans ce qu'on appelle le 9 cubes, ne disaient pas à pied, mais à Yep, et je leur ai piqué le verlan.
Elle pique tout, enfin, hein. Faites gaffe à ce que vous disiez, parce que ce que vous dites plutôt. Ce que vous disiez. Faites gaffe à ce
et bien
que vous
voilà,
disiez.
Puisque,
elle va vous le piquer ce que vous disiez.
Non, je vais te piquer, vous le disiez. Tu vas voir. Avant de descendre, alors là, oui, c'est pareil, j'ai piqué un cheminot, un pataquès magnifique. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier. Un agréable voyage, une bonne journée. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la chaîne occasionnée. Votre chef d'abord, personnel au bout du quai, étiqueté, quitté, abandonné, suspect. Bien vouloir nous signaler tout objet qui paraîtrait, nous vous remercions de votre incompréhension. Merci.